Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.
Bonjour à toutes et tous. Eh bien, tout d'abord, j'ai envie de vous dire que c'est un vrai bonheur de me retrouver au micro de ces deux ailes pour Délivrez-vous après tous ces mois, ces semaines d'absence. J'espère que vous avez apprécié les rediffusions qui ont été effectuées. Je suis heureuse de retrouver ce studio à qui je suis attachée, ainsi que les gens avec qui je travaille, Émilie, Henrik, mon fidèle technicien toujours présent. Et puis, pour recommencer Délivrez-vous, j'avais envie de me faire un plaisir de recommencer avec un auteur que j'apprécie beaucoup, autant l'homme que je connais un petit peu maintenant au travers des interviews, autant que l'auteur, l'écrivain, l'auteur de deux thrillers qui nous fait toujours frissonner, mais c'est aussi un homme généreux, un homme avec les yeux grands ouverts sur son temps, qui est lucide sur ce monde, mais qui néanmoins, je pense, est un profond humaniste, mais qui a toujours un regard assez cohérent et honnête sur le monde. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui, c'est son dernier roman, La Vallée, aux éditions Ixo. Et je vous assure que cette vallée, eh bien, elle fait frissonner. Bonjour Bernard Minier.
Bonjour, diable, quelle introduction.
Merci d'avoir de nouveau accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, d'être fidèle à cette émission depuis maintenant, Glacé, depuis 2011, pour ce nouveau roman, La Vallée, aux éditions Ixo. Alors, on s'était entendu la dernière fois pour M au bord de l'abîme. Hein, c'était vraiment un livre qui sortait un petit peu de vos anciens écrits. On avait quitté Martin Servaz dans Sœur, un Martin Servaz abîmé, c'est toujours le bonhomme un petit peu esquinté par la vie. Et puis là, on va retrouver Martin Servaz. Déjà, on va un peu parler de lui parce qu'on le retrouve plus serein, moins écorché par la vie, plus heureux parce qu'il n'est plus seul dans la vie. Alors, on va voir qu'au fur et à mesure du livre, les choses vont évoluer. Mais vous avez été heureux de retrouver votre copain plus heureux, plus serein.
Oui, c'est vrai qu'il a longtemps été un chien sans collier et j'ai cette solitude que j'ai souvent décrite qui était la sienne. Je voulais un peu en finir avec ce pauvre Martin. Je voulais quand même lui donner un petit rayon de soleil au début du livre. Ouais. Alors, en même temps, ça n'a pas forcément duré très longtemps. Mais c'est vrai qu'il a une compagne dans ce livre. Il y a Léa qui est entrée dans sa vie, qui est une femme médecin qui à l'hôpital de Purport à Toulouse, qui s'occupe d'enfants malades, et qui est une femme forte avec une très forte personnalité, mais en même temps très solaire, très lumineuse, donc il lui apporte cette lumière dont il avait besoin. J'étais assez content de présenter un Servaz nouveau. En plus, dès le début, il essayait d'arrêter de fumer, donc voilà, on sent bien qu'elle a sur lui
une bonne influence.
Et puis c'est toujours intéressant parce que c'est comme la vie elle-même. La vie, c'est des rencontres, c'est des carrefours. Il n'y a pas forcément des panneaux de signalisation à chaque carrefour pour nous indiquer la bonne direction. Donc, j'aime bien aussi me laisser surprendre par mon personnage, par mes histoires. J'avais pas forcément prévu que ça se passerait comme ça, mais je trouvais que c'était un bon début.
Alors, vous donnez également la part belle aux femmes dans ce roman. Il y a donc Léa, il y a aussi la mère de ce village et bien d'autres femmes. Je pense pas que de votre part ce soit une question de parité. C'est parce que je pense que c'est venu à vous comme ça naturellement. Elles se sont imposées à vous, je pense, non?
Ah ben non, c'est pas du tout une question de parité. Du reste, il n'y a pas de parité puisque les femmes sont beaucoup plus en force dans ce roman-là que les hommes. En dehors de Martin Servaz lui-même, les personnages les plus forts de la vallée, ce sont des femmes. C'est effectivement la mairesse Isabelle Torres et Irène Ziegler, que mes lecteurs connaissent bien depuis Glacé, qui est donc de retour, hein, puisqu'on l'avait perdu de vue depuis... elle était dans les premiers romans, puis elle avait disparu.
Elle
est de retour de l'étranger, donc on retrouve ce personnage qui était très présent dans Glacé. C'est la psychiatre, Gabriella Dragoman. C'était pas du tout prémédité, ça s'est trouvé comme ça, et quand j'ai eu suffisamment avancé dans le roman, je me suis rendu compte que les personnages les plus forts de ce roman-là, c'était pas des hommes, mais des femmes. Et je me suis beaucoup amusé avec ces personnages féminins qui sont tous différents les uns des autres, mais en même temps qui ont en commun d'avoir cette personnalité très forte.
Tout à fait. Alors on retrouve hein, tout au long du roman ce genre de petits psychés, petits clins d'œil aux anciens livres. Alors la vallée, on va le préciser parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tient un petit peu à cœur. Le roman a été écrit avant la pandémie, avant le confinement, parce que finalement dans cette vallée, ce qui va se passer, c'est que les gens vont y être bloqués pour un événement qui s'est réellement passé, parce que la base de vos livres, c'est toujours vous appuyer sur toujours, souvent sur quelque chose qui a été réel. C'est un éboulement qui s'est passé en 2019 et qui a coupé la route du village vers les activités, donc plus travaillé, plus déplacé. Et donc ce village dans la vallée va se retrouver complètement coincé et coupé du monde.
Oui, alors en effet, c'est alors l'éboulement évidemment du roman n'est pas le même que dans la réalité, puisque ça se passe pas exactement au même endroit. Dans la mesure où ma vallée, ma petite ville d'Aigueville sont comme d'habitude des lieux imaginaires ou en tout cas des lieux que j'ai fantasmés, réinventés à partir de lieux de réel. L'éboulement, ça s'était passé, c'est la route qui mène à l'Andorre, à la principauté d'Andorre, qui a été coupée pendant 2 semaines par tout un effondrement d'un pan de la montagne. Et quand on sait que c'est quand même 3000 véhicules jour, et l'Andorre dépend énormément de cette route, justement, pour ses commerces, puisque l'activité commerciale, on peut imaginer que la DIRSO, la direction interrégionale des routes du Sud-Ouest, a vraiment mis tout son... toute son énergie à la dégager, il a quand même fallu 15 jours. Là, on est dans une petite vallée, une petite ville beaucoup moins attractive pour le reste du monde que l'est l'Andorre. Et cette route qui est coupée, évidemment, ça isole cette population qui se retrouve livrée elle-même, qui se trouve confinée en quelque sorte. Et c'est là où c'est très étonnant, parce que moi, j'ai terminé ce roman cet hiver, il est parti chez l'imprimeur au mois de février, et on retrouve des enfants qui vont plus à l'école, des parents qui sont au chômage technique parce qu'ils peuvent plus sortir de la vallée pour aller travailler, du ravitaillement qui se fait à base d'hélicoptères, et puis toutes des populations qui se rebellent, enfin voilà. C'est assez étrange de penser que ce livre a été écrit avant le confinement.
Ouais. Ah, ça c'est moi je me suis dit, ou alors il a rêvé, c'était de la prescience, une forme de prémonition, ou alors Bernard Minet est un visionnaire. Voilà.
J'ai pas cette prétention là, non, je pense que c'est plutôt le fruit du hasard.
Le fruit du hasard.
C'est curieux.
Oui. Mais au-delà de ça, donc dans ce livre, hein, effectivement, le confinement traite des difficultés au quotidien. Mais plus largement aussi, c'est le rapport des gens à la vie, c'est-à-dire les problèmes sociaux, les problèmes économiques. Et vous avez, un regard assez pointu, assez acerbe sur la chose, sans indulgent, mais en étant cohérent et intelligent sur le regard. La vallée permet aussi d'exprimer ce que vous ressentez par rapport à ce monde, à ce monde ancien, à ce nouveau monde, en tout cas ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, ce que nous vivons et ce que nous allons vivre dans les mois à venir.
Oui, moi, ça m'intéresse pas uniquement de raconter une histoire aussi addictive et palpitante que possible, et j'espère qu'elle est, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a aussi une série de meurtres avec quand même des mises en scène très spectaculaires dans le livre.
Mais on ne dit rien.
Ce côté, jouer avec les peurs de mes propres peurs et les peurs de mes lecteurs, jouer au chat et la souris en lui proposant des pistes, évidemment que ça m'amuse, mais je veux aller au-delà, et avant la crise sanitaire qu'on vient de vivre, il y a eu une autre crise sociale, économique profonde en 2019, et il m'était impossible d'écrire un récit qui se passe dans cette période et qui n'en fasse pas état. Donc dans la vallée en question, c'est pas évidemment les gilets jaunes hein, qui manifestent, c'est la population elle-même qui a peur au fond, qui panique à cause de cet assassin qui est enfermé avec elle. Et donc on a en effet cette vallée et cette petite ville qui sont à l'image de la société de l'époque actuelle, c'est-à-dire que on est dans un pays où aujourd'hui la confiance est brisée. Elle est brisée entre la population et l'autorité, entre la population et ses représentants, entre la population et les médias aussi quelque part. Et bien entendu, je voulais parler de ça. Donc tous ces événements qui se passent, qui font que cette communauté se déchire et qu'apparaissent les mêmes fractures que dans le reste de la société, c'est l'occasion vraiment de parler de la France 2019, parce qu'on a vécu des choses comme on n'en avait jamais vu, ou en tout cas depuis très longtemps.
Tout à fait. Alors on s'aperçoit que le confinement là, forcé des gens de la vallée amène à certains conflits, à certaines réflexions aussi, mais en plus effectivement viennent s'ajouter des meurtres assez atroces, et c'est là qu'on va retrouver effectivement Martin Servaz. Donc en fait il y a une double psychothérapie, une double psychose aussi de la part de ces gens de la vallée, de ce petit village, parce qu'effectivement il y a ces meurtres et puis c'est cette vie, mais c'est aussi la façon de se retrouver face à soi, face aux autres, et de se poser aussi peut-être les vraies, alors bonnes questions, je ne sais pas, mais aussi les vraies questions.
Bah, je pense que c'est ce qui nous est arrivé aussi pendant le confinement. Beaucoup de gens se sont interrogés sur le sens de leur vie, sur leur existence telle qu'ils la menaient aujourd'hui. Les gens qui sont dans les villes, par exemple, qui ont été confinés dans des petits appartements avec les voisins autour, qui sont confinés également, dont tout ça est extrêmement bruyant, mais qui ont aussi parfois, avec le confinement, par exemple, on a vu le meilleur et le pire.
Oui.
On a vu des voisins solidarité. Qui se découvrir alors qu'ils ne se parlaient pas auparavant.
Oui. La solidarité.
Ils commençaient à échanger, à se connaître. Mmh. On a vu l'entraide, on a vu à 20h tous les soirs les gens qui applaudissaient. Et puis on a vu à côté de ça d'autres gens qui... inviter les infirmiers qui logeaient à côté de chez eux à quitter l'immeuble pour aller vivre ailleurs. Mmh. On a vu des braquages de camions sur l'autoroute qui étaient remplis de masques. On a vu le meilleur et le pire de l'humain. Mmh. Et c'est le propre de ces situations-là, comme cette vallée, c'est un révélateur, en quelque sorte. Elisabeth George appelait ça un creuset. Un creuset, c'est quand les personnages sont coincés, tout devient plus fort, plus tendu, et les masques tombent. Au fond, on voit toutes les relations prennent une intensité encore plus grande. C'est ce que j'ai voulu faire, et oui, chacun dans ses circonstances est amené à s'interroger sur le sens de la vie telle qu'il l'amène. Mmh. Est-ce qu'il a choisi la bonne direction, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être, ça, je crois que ça a déjà commencé, changer d'existence, changer de métier, changer de lieu de vie aussi. Il va y avoir sans doute un mouvement un peu vers les campagnes.
Tout à fait.
Pas sûr d'ailleurs que forcément tous les habitants des campagnes en soient ravis.
Ça.
mais voilà, bien sûr, ça a remis en question plein de choses, cette crise.
Alors moi, je me suis posé, parce que votre livre m'amène, et je ne suis pas la seule à me poser toujours des tas de questions. Vous nous forcez aussi, entre guillemets, bien sûr, à avoir un regard sur les choses. Mais finalement, les gens de la vallée, de ce petit village, coincés entre ce confinement et les assassins, mais nous, finalement, coincés dans nos maisons, dans nos appartements, avec un assassin, un seul, le virus, mais qui n'était pas moindre non plus, et moins grave aussi. Vous voyez ?
Absolument. Alors là, il y a une différence fondamentale là-dedans, elle ne vous aura pas échappé, c'est que dans mon roman, évidemment, on a peur. Hein. Je suis là pour faire frissonner mes lecteurs, je ne suis surtout pas là pour les ennuyer. Moi, j'aime les attraper par le col, les plonger dans l'histoire, jusqu'à la fin.
Je vous rassure, c'est réussi.
mais ce qui ne vous aura pas échappé, c'est que cette peur qui est omniprésente dans le livre, on sait, le lecteur sait d'avance, dès qu'il commence... qu'au bout de 400 ou 500 pages, ça s'arrête.
Oui.
Et que quand il a refermé la couverture, c'est terminé.
Oui.
Or, cette histoire de virus, on ne sait pas trop si c'est fini, si c'est pas fini. Mm. La peur est encore présente, elle est encore là. C'est la
Bien
grande
sûr.
Différence avec mes fictions.
Bien sûr.
On ne sait pas quand ça va vraiment s'arrêter.
C'est vrai, ça s'arrête avec le roman, mais on sait que de toute façon, au prochain, on aura de nouveau peur. Donc...
j'espère bien, je suis là pour ça.
Voilà. Alors, il y a aussi un personnage, je dirais, qui est important aussi dans votre livre, c'est cette forêt. Cette forêt qu'entoure, parce que c'est dans une vallée, c'est dans la montagne, il y a aussi cette forêt. Vous aimez bien les forêts, parce que moi je me souviens d'une course-poursuite, si ma mémoire est bonne, danseur, où il y avait une course-poursuite dans une forêt. Là, la forêt est assez présente hein, quand même aussi. Hein.
Oui, elle l'était du reste aussi, je crois, dans Glacé.
Dans Glacé,
Cercle.
Oui.
En fait, moi j'ai souvent répété que j'écris des contes de fées pour adultes. Et donc, du reste, dans Glacé, c'était évident, puisqu'il y avait des personnages qui s'appelaient Grimm, Héros, Chaperon, évidemment, référence au petit chaperon rouge, etc. Donc j'avais quand même mis des gros cailloux, hein, comme le petit poussé, pour bien indiquer qu'on était dans une histoire très réaliste du point de vue de la procédure policière, des enquêtes, etc. Mais on était en même temps dans une sorte de conte de fées pour adultes, évidemment. Et c'est ce que j'écris. Et dans les contes de fées, la pauvre forêt est quasi omniprésente.
Et oui, Blanche-Neige,
Petit Poussé, on a toujours de la forêt. Oui.
La Belle au Bois dormant.
Voilà, exactement. Mmh. Donc, c'est cette dimension du conte, cette dimension féerique, alors anxiogène en ce qui me concerne, qui est là et qui est incarnée par la forêt. La montagne aussi est un décor très spectaculaire, parce que la montagne comme la mer, et on le voit ici par moments, la montagne comme la mer, c'était un milieu hostile. L'homme, certes, s'y est installé, mais c'est quand même un milieu qui lui reste hostile. Il y a une phrase dans le roman où, à un moment donné, on parle de la nuit tombe sur les montagnes, ces montagnes qui deviennent noires tout à coup, cette vallée qui se noie dans l'ombre, et on voit apparaître des petites lumières humaines qui au fond, font état de cette présence et qui luttent contre contre cet environnement, cette nature qui est fondamentalement hostile, même si on l'adore, la montagne.
Tout à fait. Mais la montagne, nos Pyrénées, qui sont chères à votre cœur et au mien, sont très belles. Voilà.
Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques en juin. Et il faut préciser que la vallée, contrairement à un glacier qui se passait en plein hiver, vallée se passe en ce moment même.
Oui, maintenant, entre mai et juin.
Au printemps. Les montagnes sont les plus belles, sauf que dans ce paradis, il y a évidemment quelque chose de terrible qui va se passer.
Malheureusement. Alors, ce qui n'est pas malheureux, c'est que nous allons faire une petite pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après avec Bernard Minier.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver.
Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Bernard Minier pour son dernier roman, La Vallée, aux éditions Ixo. Alors, moi, dès le début du livre, hein, on se met un peu dans l'ambiance, c'est-à-dire que il y a un personnage, on va pas dire qui est-ce, il est là, il est dans la neige, on le retrouve, on l'extirpe, il sait pas très bien où il en est, il sait pas s'il est mort, s'il est vivant, il a froid, il a chaud, il tremble, et dès ce moment-là, on perd un petit peu le fil des choses, c'est-à-dire qu'on dit oh là là, où est-ce qu'il va nous emmener, ça y est, on est parti. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous écrivez les premières lignes. Là, l'angoisse du personnage, ce froid, ce chaud que vous nous faites ressentir. Vous-même, vous ressentez tout ça?
J'essaie de faire en sorte de le ressentir, oui. Alors après, ça dépend des circonstances, mais ce qui importe dans ces premières lignes, ces premières pages. J'essaie toujours depuis Glacé, au fond, depuis mon premier roman.
Oui.
Je considère que tout est important, évidemment, dans un roman. À chaque paragraphe, à chaque page, à chaque chapitre, j'essaie de surprendre le lecteur, de de le rendre addict
tout de suite
à mes histoires, mais néanmoins le début et la fin sont vraiment fondamentaux.
Bien sûr.
Et chaque fois au début j'essaie vraiment de, c'est comme un coup de poing mes prologues, c'est une gifle que j'essaie de lui donner au lecteur et de lui dire voilà voilà ce qui t'attend, sois prêt, tiens-toi prêt, ça va. Ça va se passer comme ça. Donc effectivement, il y a une scène très forte au départ, une scène d'hypothermie, on peut dire.
Tout à fait.
Un personnage qui est pris dans la glace.
Oui.
Et c'est au fond une façon d'annoncer la couleur. Je ressens les choses plus ou moins. Je pousse assez loin l'expérience. Je vais toujours dans les lieux que je décris, dans M, par exemple, mon roman précédent qui sort en poche en même temps, chez Pocket. Ça se passe à Hong Kong, ville vertigineuse, oppressante, extraordinaire qu'est Hong Kong. Et évidemment, je me suis rendu là-bas, et non seulement je me suis rendu là-bas, mais pas en touriste. J'ai été dans les quartiers, les nouveaux territoires où les touristes ne vont jamais, qui sont des sortes d'immenses cités dortoirs, parce que Hong Kong est une ville très chère, donc les gens qui travaillent habitent au bout des lignes de métro. J'ai pris ces lignes de métro jusqu'au bout. Je suis descendu dans les bas-fonds la nuit. J'ai fait tout ce que mes personnages font. Je me souviens d'une scène, alors j'en avais parlé à l'époque avec les journalistes, ça les avait fait tressaillir. Je leur explique, il y a une scène dans Glacé où à un moment donné, quelqu'un met un sac en plastique sur la tête de Servaz pour essayer de l'étouffer. Et j'avais expliqué que pour comprendre les sensations de ce plastique qui se colle à la bouche et
vous
au
l'avez
nez,
fait vous-même.
Ce sentiment d'asphyxie, j'avais moi-même fait l'expérience avec quelqu'un à côté, évidemment. Et pour vraiment ressentir ça, j'ai essayé. Alors évidemment, dans certaines limites, après l'imagination prend le relais, mais je fais en sorte que les choses soient le plus réalistes possible. Je m'attache vraiment à ça. La scène d'hypothermie au tout début du livre, une hypothermie, ça se passe vraiment comme ça. Et c'est d'ailleurs ce qui rend les choses encore plus terrifiantes, c'est quand on s'inspire du réel plutôt que de son imagination.
Dans Une putain d'histoire aussi, il y avait des choses aussi assez frappantes, assez réelles avec aussi.
J'avais procédé de la même manière.
Je m'étais rendu
à Seattle.
Oui.
Je m'étais rendu dans ces îles, les îles San Juan, au large de Seattle. J'avais rencontré les shérifs qui font la police dans ces îles, en fait, qui ont autant de bateaux que de voitures. J'avais rencontré la brigade criminelle de Seattle, je m'étais baladé dans leur voiture de patrouille, j'avais visité leur service. Voilà, c'est quelque chose auquel je tiens, ce poids de réel, cette réalité, parce qu'au fond, aucune fiction ne peut surpasser le réel. Le réel finit toujours par nous surprendre. Le monde est incroyablement surprenant, la vie est surprenante, et il y a tellement de matériaux dedans pour nourrir nos livres, que jamais notre imagination ne pourra le surpasser, même si après il y a ce travail d'imagination, bien entendu,
bien sûr,
qui se fait. Les meurtres qui sont décrits dans la vallée, comme ceux qui étaient décrits dans le glacé, on a quand même du mal à imaginer que ça puisse arriver dans le monde réel.
Oui, mais même dans Sœur aussi, la façon dont on retrouve, elle est attachée à un arbre, dans Nuit aussi, c'est vrai que c'est toujours, et dans M aussi, les meurtres sont quand même assez,
c'est un peu comme des tableaux.
C'est glaçant, dans M c'est glaçant.
Des tableaux, c'est pas le genre de tableau qu'on accrocherait au mur de son salon, on est bien d'accord.
Non, voilà, sans faire de mauvais parallèles, dans M c'est glaçant et glacé, voilà.
Exactement.
Et c'était une putain d'histoire, voilà. Si on peut faire une jolie
retomontage. Il y a quelques lecteurs qui se sont essayés du reste.
C'est pas mal. Alors pour continuer un peu, parce qu'on tourne autour des choses, il faut rien dire pour laisser bien sûr le suspense vibrant pour les lecteurs, bien évidemment. Alors ensuite, moi ce que j'aime, c'est le souci du détail dans l'impression, dans le bruit et dans ce que nous allons ressentir. Alors il y a toujours ce personnage qui va aller dans la forêt. Bon, et puis il y a les craquements. Alors il sait pas si c'est ses propres pas sous le feuillage ou sous les branches, et puis ça vient peut-être d'ailleurs. Et alors on est là haletant, et ce souci du détail, forcément c'est des choses que vous avez vécues. On marche tous dans la forêt, ça craque sous les pieds, mais c'est très vibrant et c'est très prenant. C'est pareil, c'est quelque chose que vous prenez aussi chez vous, de votre expérience, de vos pas dans une forêt, avec le ce que l'on peut ressentir et nous le faire partager aussi à ce moment-là, ce petit détail qui peut en dire beaucoup dans le suspense, dans l'angoisse.
Oui, tout à fait. Je ne me sépare jamais de mon carnet de notes, en fait.
Ouais.
C'est ça, c'est le propre de l'auteur. Le carnet de notes, c'est l'outil indispensable. On l'a toujours dans la poche et on est en train de prendre des notes à chaque moment. On n'est pas auteur de fiction, on n'est pas romancier 8 heures par jour ou 6 heures par jour, on est romancé 24 heures sur 24, en tout cas tant qu'on est éveillé et on prend des notes tout le temps. Moi, il m'arrive même de m'éveiller au milieu de la nuit parce que tout d'un coup, j'ai fait une sorte de rêve où j'ai eu une idée qui m'a traversé l'esprit et d'avoir mon carnet de notes à côté de moi et de la noter. Donc, on prend des notes en permanence et quand je me balade dans une forêt, quand je marche dans la montagne, quand je suis à Hong Kong au beau milieu de la nuit dans un quartier un peu interlope, je prends des notes tout le temps. Ouais. Alors, et comme je suis d'une génération qui a connu un monde sans internet, sans téléphone portable, etc., moi j'ai un carnet Moleskine et j'ai un crayon. Voilà, je prends des notes.
Je comprends.
Comme on le faisait avant.
Je comprends. J'ai aussi un carnet sur mon bureau avec un gros feutre et je note aussi les choses. Voilà, de la même façon. Je trouve que c'est facile d'y accéder sur un bureau plutôt que de se tourner vers l'écran. Des fois, c'est plus rapide. Voilà. Alors, cette vallée et ce petit village hein, où les gens, on le disait, vont être enfermés à cause de cet éboulement. Et puis, au-delà de ça, bien sûr, avec ces meurtres qui vont se dérouler. On retrouve également Martin Servaz. À Martin Servaz, on disait plus serein, plus heureux. Et puis, il y a tous ces personnages autour, ces personnages féminins. On disait aussi, il y a toujours ces petits clins d'œil par rapport aux anciens romans. Cette vallée, vous l'avez dit, hein, petit village n'existe pas, mais moi je trouve que tous les petits villages comme ça dans les vallées, au creux des vallées, ça a toujours un côté un petit peu angoissant, un peu enfermant, un peu confiné, je trouve, et c'est toujours source un petit peu d'angoisse.
Oui, sans doute. Alors, c'est plus une petite ville qu'un village, hein, parce que c'est quand même un gros bourg.
Un gros bourg, oui.
Cette Aigues-Vives dans cette vallée.
Ça m'a fait penser à Saint-Béat juste avant l'Andorre.
Oui, alors c'est peut-être un peu plus grand que Saint-Béat. Moi, je m'inspire souvent de Luchon, qui est pas très loin, du reste.
Qui est pas loin, très pas loin.
Voilà, c'est plutôt la taille de Luchon, de Bagnères de Luchon, quelque chose comme ça, ou de Bagnères de Bigorre. C'est un petit peu plus gros. Mais moi, j'ai passé toute mon enfance au pied de ces Pyrénées. J'ai en commun, le commun, c'est le bout du bout de la Haute-Garonne, juste avant l'Espagne. Et je me rappelle que Flaubert disait, alors je suis pas du tout d'accord avec lui, parce que j'ai, moi... un peu de sang espagnol dans les veines et j'ai aussi passé pas mal de temps en Espagne dans ma jeunesse et même encore récemment. Flaubert disait que après les Pyrénées c'était l'Afrique. Bon, évidemment je suis pas du tout d'accord avec ça, mais ce que ça voulait dire c'est que les Pyrénées c'est une barrière. Toutes les vallées sont en cul-de-sac et au-delà c'est très mystérieux. Donc et pendant très longtemps c'était très compliqué de les franchir. Donc il y a cette idée d'enfermement, il y a cette idée de Finistère, hein, c'est-à-dire la terre du bout. Qui est présente et ça développe un certain état d'esprit. Moi, quand j'ai grandi à Montrégeau, les hivers étaient quand même très pluvieux et très longs. Il pleuvait de octobre à avril. C'était gris. En plus, moi, dans ma jeunesse, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone portable. On avait deux chaînes de télé. Donc, c'était des hivers qui étaient très longs. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je déploie des trésors d'imagination, c'est parce qu'il en fallait pour occuper tout ce temps qui passait beaucoup plus lentement qu'aujourd'hui. Donc il y a aussi une appréhension du temps, une appréhension, et oui, puis on se sent un peu au bout du monde quand on est dans ces parages-là, que j'ai bien connus, on est très loin de Toulouse, de la ville, on est très loin de... on est vraiment au bout. Ces Pyrénées, c'est une barrière.
C'est vrai. Alors, on quitte aussi un peu, il était un peu plus présent dans Danseur, l'hôtel de police de Toulouse, que je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir la dernière fois que je suis allée à Toulouse, qui est tout rose comme la ville.
Qui ressemble un peu à une forteresse. Avec
complètement.
Ses tours de guet.
Il est incroyable, cet hôtel de police,
quand
même. Il est quand même incroyable. Et alors, Servaz, là-dedans, il déambulait, à moitié endormi, toujours entre deux, un peu écorché, un peu malade. Donc, c'est vrai que là, on a l'impression qu'il respire un petit peu plus, notre Martin Servaz.
Ça dure pas longtemps.
Ça dure pas longtemps, mais bon.
C'est très vite, il reçoit un coup de fil au beau milieu de la nuit, un appel au secours. Et il se précipite donc dans les Pyrénées justement pour répondre à cet appel en pleine nuit. Donc et l'angoisse revient évidemment.
Il revient, bien sûr.
Parce qu'il a peur de ne pas arriver à temps. Donc pendant quelques pages, il a cette vie avec Léa, avec Gustave aussi. Hein,
son fils Gustave,
il a découvert d'ennui.
D'ennui, il avait 7-8 ans, c'était un petit garçon.
Ça, il est dans un noyau familial, donc c'est un Servaz un peu nouveau, et puis on va pas dévoiler la fin.
Il y a
un état d'esprit un peu différent, il faut bien... 10 ans se sont passés depuis Glacé, c'est aussi ça un peu la vallée, c'est Glacé 10 ans après. 10 ans se sont passés plus ou moins depuis Glacé. Pendant ces 10 années-là, la France a vraiment profondément changé. C'est plus du tout le pays qu'on a connu il y a 10 ans.
C'est vrai.
Mais Servaz aussi, il a pris 10 ans, il a changé, et puis l'auteur que je suis aussi.
Oui.
Donc tout ça, évidemment, il a fallu en tenir compte.
Est-ce que, alors vous allez me dire que je me précipite, mais je sais que je ne suis pas la seule. Je suis sûre que vous avez déjà l'idée du prochain roman dans votre tête ou dans votre malle à manuscrit. On retrouvera Martin Servaz dans quelques mois.
Alors oui, évidemment, non seulement j'ai l'idée, mais j'ai aussi des pages, parce que comme j'étais confiné
oui.
et que j'avais rien d'autre à faire qu'écrire, autant dire que j'écris. La réponse est oui, il y aura Martin Servaz dans le prochain roman.
D'accord. Mais écoutez, c'est un véritable bonheur de nouveau de vous retrouver, La Vallée, aux éditions Exo avec Bernard Minier. Je vous souhaite plein de bonheur pour ce nouveau roman qui est vraiment palpitant, passionnant. Je n'ai pas besoin d'encourager nos lecteurs et lectrices pour le faire parce que je suis sûre qu'il va marcher. En tout cas,
merci
je vous donne
beaucoup.
Rendez-vous dans quelques mois. Et puis, je suis heureuse d'avoir partagé cette vallée avec vous et puis d'avoir entendu ce léger accent qui persiste encore dans votre voix. L'accent de...
Ah, moi, je ne me rends pas compte, mais si vous le dites.
Oui, oui, il subsiste encore.
Sur parole.
Merci Bernard Minier.
Merci.
Et à très bientôt. Merci, au revoir.
Au revoir.